Pour nous, c'est parti. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Attention à la marche et soyez les bienvenus sur la planète et sa banlieue. Le 18-20, c'est d'abord ce que vous devez retenir de cette journée du mardi 15 juin avec le journal de Mariam El Kurdi. Bonsoir Mariam.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
L'essentiel commence avec une apparition surprise.
Oui, Nicolas Sarkozy pour la première fois à la barre du procès Big Malion au tribunal correctionnel de Paris. Il nie avoir fait des dépenses excessives lors de sa campagne présidentielle 2012. Les Bleus font leur entrée dans l'Euro de foot face à un géant. Ils affrontent l'Allemagne, quatre fois championne du monde. Coup d'envoi dans 3 heures, nous irons prendre la température à Munich où se joue le match ce soir. Une première pour les adolescents de 12 à 17 ans depuis ce matin. Ils peuvent se faire vacciner contre la Covid. Reportage à Arcachon à suivre. Un cri d'alarme des scientifiques allemands de retour d'une expédition au pôle Nord. Le dérèglement climatique atteint un point de non-retour, nous dira Célia Kiré.
À 18h15, un jour dans le monde, en Irlande du Nord. Ce soir, on a beaucoup entendu parler d'Irlande du Nord au G7 en cette fin de semaine à cause de l'accord bancal du Brexit sur la circulation des biens, mais pas seulement. Ça tangue aussi pour d'autres raisons. On verra ça avec le premier invité ce soir. Et puis 19h20, c'est le téléphone sonne. Ce soir, on parle féminicide à la veille du verdict dans l'affaire de Julie Douib en Corse. La question qu'on a envie de poser, c'est pas mais pourquoi on ne fait rien ? Parce que oui, les choses sont faites. Oui, on progresse. Oui, il y a bien une prise de conscience. Mais pourquoi on ne sait pas faire tomber les chiffres des féminicides ? Pourquoi les courroies de transmission entre police et justice ne se font pas naturellement ? Pourquoi tant d'hommes passent encore entre les mailles du filet ? Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas ? 01 45 24 7000.
France Inter.
En 3 semaines d'audience, donc, il n'était encore jamais apparu.
Nicolas Sarkozy s'est présenté pour la première fois à la barre du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire Big Malion, procès sur le financement illégal de sa campagne présidentielle de 2012. L'ancien chef de l'État a été interrogé sur ses présumées dépenses excessives de cette campagne. Costume, cravate et masque noir, il est apparu l'air grave. 14 prévenus en tout dans cette affaire. Jusqu'à présent, on a entendu leur récit sur une campagne XXL, des meetings grandioses. D'où le dérapage financier, les hausses et les fausses factures qui devaient permettre de le camoufler. Bonsoir, Laurélie qui arrive.
Bonsoir.
Un récit que Nicolas Sarkozy a tenté de déconstruire.
Masque sous le nez, tout en gesticulation, Nicolas Sarkozy raconte son entrée dans la campagne de 2012. En janvier, il n'est pas encore officiellement candidat à sa réélection. Mais chacun sait qu'un président sortant a de grandes chances de se représenter. Tout le monde n'est pas François Hollande, tacle-t-il. À l'en croire, il applique ensuite la même recette que 5 ans plus tôt. Même nombre de meetings, 44 qu'en 2007. Et chez lui, le souci permanent de ne pas voir trop grand. Pour preuve, ce QG de campagne qu'il a voulu petit car un grand, ça ne sert à rien et ça coûte de l'argent pour les format de meeting, rien d'irraisonnable. J'ai toujours dit à mon équipe que j'aimais les petites réunions pour le contact avec les gens. Sur les équipements, sa seule préoccupation, une bonne sono pour ne pas me casser la voix. Je ne suis pas Patrick Bruel. Nicolas Sarkozy aurait bien voulu faire Bercy, mais mon directeur de campagne m'a dit non, on n'a pas l'argent. Il raconte aussi ce meeting à Toulouse, organisé dans un hangar, avant de s'énerver. Elle est où la campagne somptueuse ? Elle est où la campagne en or massif ? Aucun article de presse n'a relevé une campagne extravagante. Comment la même formule dès lors a pu coûter 2 fois plus cher à 5 ans d'intervalle ? Il le martèle, les 20 millions d'euros ne sont pas allés dans sa campagne. Sous-entendu, ils ont été détournés par le clan de son grand ennemi, Jean-François Copé. Une thèse pourtant battue en brèche pendant l'enquête et que rien n'a permis d'étayer depuis le début du procès.
Merci Laurélie Carim en direct du tribunal correctionnel de Paris. Nicolas Sarkozy en cours. 1 an d'emprisonnement et 3750 euros d'amende dans ce procès. La filiale française d'IKEA a reconnu coupable d'avoir espionné illégalement plusieurs de ses salariés et des clients entre 2009 et 2012. Le géant suédois de l'ameublement en France va devoir verser 1 million d'euros d'amende. Peine prononcée aujourd'hui par le tribunal correctionnel de Versailles. L'ancien PDG d'IKEA France, lui, est condamné à 2 ans de prison avec sursis et à 50 000 euros d'amende. Il avait fait du droit à une fin de vie digne son combat. Alain Coq, 58 ans, est décédé après un suicide assisté en Suisse. Il souffrait d'une maladie incurable, diagnostiquée à l'âge de 23 ans, et qui, selon ses termes, l'a conduit à vivre pendant 35 ans en soins palliatifs. Il a accompagné cet ultime geste d'une lettre adressée au président de la République. Il dénonce le manque de courage de la classe politique. Une nappe noire de 16 km de long en mer à Saint-Brieuc, dans les Côtes d'Armor. Un navire impliqué dans la construction d'un parc éolien en mer a déclaré une fuite d'huile de 100 litres. La préfecture maritime évoquait hier soir une pollution d'une ampleur significative. Aujourd'hui, la société Elmarine, filiale du géant de l'énergie espagnol Iberdrola, en charge du chantier, assure que le fluide qui s'est échappé est biodégradable et représente un faible impact sur le milieu aquatique.
Un sommet diplomatique Union européenne-États-Unis après l'arrivée du président américain Joe Biden à Bruxelles.
Et une réconciliation sur le conflit Airbus-Boeing, un conflit qui empoisonne les relations américano-européennes depuis 17 ans. Il porte sur les aides publiques accordées au secteur aéronautique, côté européen et américain. Les deux blocs s'affrontaient depuis 2004 sur ces aides jugées illégales. Aujourd'hui, ils enterrent la hache de guerre. Bruxelles et Washington annoncent une trêve de 5 ans. Durant cette durée, ils suspendent les droits de douane punitifs qu'ils infligeaient dans le cadre de ce contentieux, toujours en cours de négociation à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Une bonne nouvelle pour les entreprises françaises qui en faisaient les frais. Elles annoncent vouloir désormais coopérer pour contrer la concurrence des Chinois. Angélique Bouin.
On était tellement occupés à se disputer que d'autres ont saisi l'opportunité pour lancer leur propre industrie aéronautique, admet sans filtre Catherine Tai, la représentante américaine au commerce. Il est donc temps, dit-elle, de coopérer entre concurrents loyaux, comprenez Airbus et Boeing, face à la Chine, aux pratiques commerciales jugées, elles, déloyales. Un revirement complet après 17 ans d'une bagarre homérique devant l'OMC, où les deux parties se reprochent d'avoir versé des aides illégales à leurs deux avionneurs. La suspension pour 5 ans des droits de douane punitifs imposé sur les vins européens ou le tabac américain est un soulagement. Cette période doit permettre de trouver un accord sur le différend originel et de rétablir la confiance entre les deux parties, le président du Conseil, Charles Michel.
L'Amérique est de retour sur la scène internationale. C'est un point de départ. On va évidemment continuer à intensifier la coopération pour promouvoir nos valeurs, pour défendre nos intérêts. Nous sommes lucides. Nous avons maintenant un partenaire avec lequel nous pouvons être engagés. Il y aura par moments des sujets plus difficile, les sujets plus délicats, mais il y aura, je pense, une volonté partagée de travailler ensemble.
Pour ce qui est de l'autre différend commercial qui empoisonne leurs relations, celui sur l'aluminium et l'acier, Européens et Américains ont convenu de s'atteler au problème mondial de surcapacité. Ils espèrent trouver un compromis d'ici la fin de l'année.
Angélique Bouin, à Bruxelles, le président américain Joe Biden salue un accord qui permet de contrer la Chine. Cet accord est le résultat de la nouvelle relation avec les États-Unis, se félicite Emmanuel Macron.
Un autre sommet de haut niveau ce soir, un sommet franco-allemand.
Rencontre choc ce soir sur la pelouse de football de Munich. En Allemagne, Fabienne Les Bleus joue face à la Mannschaft. Premier match des footballeurs français de cet Euro 2020, décalé d'un an à cause de la pandémie. Deux ex-champions du monde vont s'affronter ce soir, coup d'envoi à 21h. Alors, les Bleus sont-ils confiants? Réponse avec le défenseur tricolore Prenel Kimpembe.
Je pense que l'état d'esprit, c'est le même. On a créé un groupe qui est bien et qui vit bien. Je pense que c'est aussi une de nos forces, malgré tout le talent qu'il y a dans cette équipe. On est tous prêts pour jouer cette compétition, mais on sait que voilà, tout de suite, dans cet Euro, dans cette compétition, avec une poule aussi relevée, va pas falloir s'endormir.
Direction Munich maintenant. Bonsoir Ludovic Piétenu.
Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marianne.
Vous êtes sur le chemin que les supporters empruntent pour aller au stade. On est à 3h du coup d'envoi. Et vous avez croisé beaucoup de monde déjà, beaucoup de supporters, notamment des Allemands?
Oui, ça afflue hein, sévèrement. Et les Allemands, les supporters savent qu'ils affrontent ce soir une équipe plus forte. Et ils citent, c'est le nom du joueur français qui revient le plus souvent, N'Golo Kanté, suivi par Karim Benzema. À mon micro, trois supporters des Aigles, Mirko, Hermann, Helmut et d'abord cette supportrice, Elke.
L'Allemagne est une équipe très forte. Elle est sympa avec nous, elle souhaite que la France marque des buts, mais que l'Allemagne gagne. Ça sera dur, dit Mirko. Pronostic de partout, but de Mbappé, Griezmann pour l'Allemagne, Goretzka et Gnabry. Les Allemands sont de retour, ça ne sera donc pas un problème ce soir, pense Hermann. Même face à des Français un peu plus forts, ils ont un avantage, les joueurs sont meilleurs. Il se dit optimiste, victoire 2-1, but de Goretzka et Müller. Cela veut dire un jeune et le retour dans l'équipe d'un plus expérimenté, commente Helmut. Et ça, c'est une bonne chose. Optimiste aussi, mais ça va être dur, un partout. Ce sera un match très serré.
Et pour savoir encore ce que pensent les Allemands, il faut ouvrir Bild, le quotidien le plus lu du pays, qui demande à Joachim Löw, l'entraîneur allemand, nous voulons un nouveau compte d'été. Référence à l'été 2006 et au mondial accueilli ici par l'Allemagne. C'était la grande fête partout dans le pays. Et puis l'été 2014, la quatrième étoile décrochée au Brésil.
Merci Ludovic Piétenu en direct de Munich. Autre match ce soir, il démarre tout juste Hongrie-Portugal, il a lieu à Budapest. C'est le premier match avec un stade plein depuis 15 mois. Une nouvelle sur le front de l'accélération de la vaccination anti-Covid à l'approche des vacances d'été. Les délais entre deux doses de vaccins à ARN messager comme celui de Pfizer sont réduits, annonce le ministère de la Santé. On pourra prendre rendez-vous au bout de 3 semaines seulement et non plus attendre au minimum 35 jours pour avoir sa deuxième injection. Eux ont certainement hâte de partir en vacances, l'esprit tranquille, les 12-17 ans. Depuis ce matin, ils peuvent recevoir une première piqûre du vaccin Pfizer. Attention, il faut qu'ils soient consentants, il faut aussi l'autorisation écrite des deux parents et que l'un des deux soit présent. Alors comment se passe cette première journée de vaccination des ados? Reportage de Stéphanie Scock dans le centre de vaccination d'Arcachon.
Emma, lycéenne, est venue avec sa maman. En quelques minutes, elle se retrouve face au docteur et son aiguille.
Tu relâches bien ton épaule, ça c'est très important pour la vaccination. Voilà, super. Donc tu vas pouvoir vaquer à tes occupations en sécurité pour toi et pour ta famille. Tu auras aussi ton pass sanitaire pour aller dans les concerts.
Emma avait décidé de se faire vacciner depuis un petit moment déjà.
C'est moi qui voulais le faire. Enfin, dès qu'on a eu l'occasion de pouvoir se faire vacciner, je voulais le faire pour pouvoir retourner à la vie normale et pouvoir refaire tout comme avant. C'est bien pour nous, ça nous protège et ça protège les autres aussi.
Le docteur Julie Fernandez acquiesce. Elle préférerait vacciner plus d'adultes, mais ils sont désormais moins nombreux sur les listes d'attente. Alors s'il y a des enfants altruistes, on ne peut que les féliciter.
On est encore loin de l'immunité collective, donc l'intérêt de vacciner tous ces jeunes, c'est d'éviter la diffusion du virus dans cette période estivale où ils vont être amenés à sortir et à se mélanger malgré les contraintes sanitaires, je crois.
À Arcachon, la vaccination va se poursuivre tout l'été et il y aura bien des doses pour les touristes en vacances sur le bassin. L'idée, c'est de vacciner un maximum de monde, enfants ou adultes.
Reportage Stéphanie Scock de France Bleu Gironde pour France Inter.
On s'en doutait, mais cette fois, les chercheurs allemands apportent des preuves visibles du réchauffement climatique.
Ouais, ces scientifiques reviennent tout juste d'une expédition menée au pôle Nord. Principal constat, la disparition de la banquise d'été dans l'Arctique. Conclusion du chef de mission, le point de basculement vers un réchauffement climatique irréversible a peut-être déjà été franchi, avec à la clé des conséquences en cascade pour la planète. Célia Akiré, bonsoir.
Bonsoir Mariam.
Cela veut dire que l'on ne peut vraiment pas revenir en arrière?
Oui, on peut le craindre. Nous sommes peut-être la dernière génération à voir l'Arctique avec une banquise l'été, déplore l'une des chercheuses, car bientôt la banquise ne sera là qu'en hiver, preuve de ce point de non-retour. Et même l'hiver, les températures sont plus chaudes qu'il y a quelques décennies. C'est la plus grande expédition jamais menée au pôle Nord. Le navire des scientifiques, le Polar Stern, un brise-glace, s'est laissé dériver pendant près d'un an. Il a parcouru plus de 3400 km en zigzag. Et c'est bien le devenir de la banquise qui préoccupe le plus les scientifiques, car la fonte des glaces s'accélère à vue d'œil. La banquise a reculé encore plus vite au printemps 2020 que depuis le début des mesures. Or, ce phénomène a des conséquences. La disparition de la calotte glaciaire, le dégel du permafrost ou la survie de la grande barrière de corail en Australie. Pour savoir si ce point de bascule a été franchi, il faudra réaliser d'autres évaluations dans les prochaines années. Les climatologues le répètent souvent, en matière de réchauffement, l'inertie est importante. En réduisant les émissions de CO2, on peut ralentir la hausse des températures, mais peut-être pas stopper le phénomène.
Merci Célia Kiré.
La musique pour rendre hommage à ceux qui sont condamnés au silence.
Oui, un hommage aux 220 000 tziganes tués par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est le thème du spectacle Is Silenti, présenté en ce moment au Théâtre des Célestins à Lyon. Un spectacle musical sous forme de complainte, imaginé par le compositeur Fabrizio Cassol pour son ami, le violoniste Manouche Tchalimberger. Il mêle à la fois la musique traditionnelle tzigane et celle de Monteverdi, Stéphane Capron.
Is Silenti s'est construit à partir de l'histoire de Tchalimberger, violoniste tzigane, non-voyant, reconnu dans le monde du jazz.
C'est grâce à une chanson qui vient de ma famille, qui s'appelle Meshunova, donc qui est une vraie chanson manouche, composée pendant la Deuxième Guerre mondiale. Quand je l'ai chantée pour Fabrizio, ça a déclenché en quelque sorte Is Silenti.
Les madrigaux de Monteverdi parlent de douleur associée à la musique tzigane. Ils trouvent tout leur sens dans la composition de Fabrizio Cassol.
Dans notre histoire occidentale de la musique écrite, c'est la première fois qu'on utilise vraiment les émotions humaines. Et ce sont des histoires d'amour, de séparation et de guerre principalement. Monteverdi en a écrit pendant 30 ans. C'est comme des fragments de lettres qu'on retrouve. Les lettres que les gitans n'ont pas pu écrire, les juifs ont écrit beaucoup. Ça pourrait être pour d'autres peuples qui n'ont pas eu l'occasion d'écrire.
À travers ce spectacle, Tchalimberger parler, souhaite rompre le silence.
Même dans la famille, même ma grand-mère ou quelqu'un qui a vécu tout ça, elle n'en a presque jamais parlé. Et c'est très important de donner un peu la parole.
Ici Lanti est un poème musical déchirant qui rend hommage à toutes les victimes de l'Holocauste.
Le spectacle se joue ce soir au Théâtre des Célestins à Lyon et ce week-end en ouverture du Festival de Marseille au Théâtre de la Criée.
Eh bien, c'est noté. Maria Melchiordi, merci beaucoup pour le journal et à tout de suite, oui. Sous les radars, vous nous parlerez notamment d'un entraînement militaire en Birmanie. Ce soir, je vous emmène aussi dans l'académie qui forme les chanteurs de la K-pop en Corée. C'est pas la mine, mais vous allez voir que c'est pas de tout repos non plus. Et puis nous irons en Irlande du Nord, le caillou dans la chaussure post-Brexit de Boris Johnson, une politique locale qui tangue. L'Irlande du Nord a 7 jours pour se trouver un Premier ministre. On va vous expliquer tout ça dans l'ordre. Et puis deuxième heure, c'est le téléphone sonne à vos appels. On parle ce soir féminicide à froid et à la veille du verdict de l'affaire de Julie Dwyb, notamment en Corse. Vous savez que les chiffres sont revenus à la hausse. Vous avez suivi les rapports expliquant les dysfonctionnements entre police et justice. Tout cela se termine en drame. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne se passe rien, mais qu'est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce qu'on ne sait pas faire, surtout, pour qu'on en finisse enfin avec les féminicides? Ça se passe au 01 45 24 7000. Avant cela, s'il vous plaît, un œil sur le ciel.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Au service de votre activité, les équipes Euromaster veillent chaque jour sur votre sécurité et votre mobilité.
Élodie Calac, bonsoir. Très chaud demain, Élodie.
Oui, ce sera la journée la plus chaude de la semaine à l'échelle nationale, Fabienne. Alors le matin, il fera souvent 13 à 22 degrés. L'après-midi, 23 à 30 degrés près de la Manche. 26 à 31 près de la Méditerranée. Là, ça va baisser quand même par rapport au jour précédent, puisqu'on a un vent marin qui se met en place. Et puis ailleurs, on aura souvent 33 à 36 degrés avec 35 à Paris, 36 à Bourges et à Montauban.
Et en revanche, attention, ça se gâte par l'ouest.
Oui, alors on aura d'abord beaucoup de soleil et puis progressivement, en effet, le ciel deviendra chaotique à l'ouest avec quelques orages des Pyrénées au Pays de la Loire l'après-midi, des averses et des orages plus nombreux de la Bretagne à la Normandie avec parfois de la grêle. Et puis en soirée, on a une nouvelle vague orageuse qui gagnera le sud-ouest. Elle remontera ensuite vers le centre-val de Loire avec des orages forts, de la grêle et de bonnes rafales de vent, donc attention.
Et Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup Élodie, à tout à l'heure après 19h.